Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Consensuel, discipliné, poli. Voici quelques-uns des qualificatifs que l'on entend souvent à propos des Allemands. Des qualificatifs qui s'appliquent en partie aussi à la politique, même si les apparences sont parfois trompeuses. À quelques jours des élections législatives, Vue d'Allemagne se penche sur les caractéristiques de la culture politique dans ce pays. Et puis on a rendez-vous au nord du nord de l'Europe, en Laponie. Un endroit que l'on imagine magnifique et sans problème. Mais là encore, attention aux apparences. Car c'est aussi une région de la Suède où les autorités sont prêtes à sacrifier une ville entière pour engranger les profits de l'exploitation minière. Au micro, c'est Constance von Gotze. Guten Tag, bonjour à tous. Peut-on vraiment dire que la campagne électorale bat son plein en ce moment en Allemagne? De nombreux observateurs la trouvent au contraire ennuyeuse, mais pas Jérôme Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande contemporaine et rédacteur en chef de la revue L'Allemagne d'aujourd'hui. Dans cet entretien, il revient tout d'abord sur cette culture du consensus typiquement allemande et qui fonctionne aussi bien dans le domaine économique que politique. Écoutez.
Alors, je pense qu'il y a une culture du consensus qui évolue par la force des choses, puisqu'on est passé avec le temps d'un système bipartite ou tripartite en Allemagne de l'Ouest à un système aujourd'hui dans l'Allemagne unifiée qui est modérément pluripartite. Ce qui me frappe aujourd'hui encore, c'est qu'on pouvait avoir la crainte avec un système évoluant vers un pluripartisme, on ne trouve pas le moyen de former des coalitions gouvernementales susceptibles de bien gouverner l'Allemagne dans les années à venir. Ça n'est pas ce qui s'est produit par un jeu qui est double, nouvelles alliances entre partis, mais surtout, il y a ce sentiment que tous les partis démocratiques représentés au Bundestag ont l'obligation morale de s'unir pour constituer une coalition qui soit fiable et qui soit stable.
Beaucoup d'observateurs allemands jugent la campagne électorale assez ennuyeuse, voire soporifique, notamment parce qu'il n'y a pas de réel débat entre les deux principaux candidats, Angela Merkel de la CDU et Martin Schulz du SPD. Comment expliquer ça? Je pense évidemment notamment au débat télévisuel entre Martin Schulz et Angela Merkel, où on avait presque l'impression qu'ils allaient se tomber dans les bras à la fin.
D'abord, je vous donne entièrement raison. Ça n'est pas une campagne électorale particulièrement, je dirais, vigoureuse. Elle manque de sel. Mais je crois que la campagne électorale, en fait, elle a commencé au lendemain de ce duel. Et elle est plus vigoureuse qu'on ne veut bien le dire. Les débats entre les représentants des petits partis sont très intéressants, de même façon que les débats organisés par ARD et ZDF lors des talk shows habituels. Puis je pense que sur les réseaux sociaux, le débat est plus houleux. Au fond, il y va désormais de la troisième place. Est-ce que ce sera les libéraux? Est-ce que ce sera des Linke? Est-ce que ce sera l'AfD? On voit bien qu'il y a là des enjeux qui ne laissent pas les Allemands indifférents.
Une autre chose qui frappe peut-être dans la politique allemande, ce sont les affaires, ou plutôt l'absence ou la quasi-absence d'affaires ou de scandales. Il y a peut-être le financement des partis politiques qui reste un peu problématique. Est-ce qu'on peut affirmer qu'on ne fait pas de la politique pour s'enrichir?
La chancelière, à cet égard, est, je dirais, le modèle du genre. Deux cultures protestantes, avec une vision beaucoup plus rigoureuse de ce qu'est la vie publique. La France reste un pays catholique, avec tout ce que cela peut avoir de pompe monarchique aujourd'hui encore, de privilèges pour les élites. L'Allemagne est beaucoup plus vertueuse depuis 1945.
Est-ce qu'on fait de la politique en Allemagne, donc si on ne la fait pas pour s'enrichir, est-ce qu'on la fait quand même pour avoir du pouvoir?
Sûrement. Il est évident que vous avez certainement en Allemagne comme en France ou ailleurs des députés qui non seulement veulent le pouvoir, mais estiment qu'avec le pouvoir, ils auront l'occasion de gagner plus d'argent. L'autre problème, c'est celui de savoir quelle est l'influence des lobbies sur politique. Et là, depuis toujours, les lobbies jouent un rôle très important. Je ne dis pas que la culture protestante permet de produire une Allemagne à ce point vertueuse et qu'elle n'est pas susceptible de se mettre au-dessus de la loi quand cela l'arrange. Je pourrais citer peut-être François Mitterrand, qui n'est peut-être pas l'homme le plus vertueux qui soit en la matière, mais qui disait que l'argent pourrit tout. Il n'avait peut-être pas entièrement tort.
Et c'est sur ce que mes confrères Bob Barry et Rick Topona appelleraient la pensée du jour que cet entretien avec Jérôme Vaillant se termine. Si vous avez d'autres questions sur la politique allemande et sur le déroulement des élections législatives du 24 septembre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un message sur WhatsApp ou sur Facebook avec le hashtag « Demandez à la DW ». Vous pouvez aussi vous rendre sur la page spéciale « Élections allemandes » sur notre site internet dw.com/français.
Eben geht der Beat ab, schiebt ab und zu durch die Straßen, die jede Ahnung auf diesem Gebiet, yeah, allen voran, dieser Mann, der Groove-Fragen geben und auf alle seine Antwort geben kann. Denn im Kampf gegen Wack-Beats hat der Bürgermeister jede Kurve schon gekriegt und jede Hürde schon gemeistert. In der City ist kein Platz für die Mucke, die nicht klingt, weil in der Stadt dies nicht gibt, jeder Swing, baby, weil alle ohne Ende Groove.
Comment déménager une ville de 18 000 habitants? C'est la question à laquelle sont en train de répondre en pratique les Suédois, car en Laponie, la ville de Kiruna doit être déplacée pour ne pas disparaître. La raison est simple, les travaux d'extraction de minerais de fer dans la mine voisine grignotent le sous-sol et l'actuel centre-ville est menacé ni plus ni moins d'effondrement. Vous êtes sur Vue d'Allemagne, en Laponie, une région habitée à l'origine par les populations samis, une région aussi où l'industrie minière a toujours été une importante ressource pour le gouvernement suédois. Les perspectives de profit réalisées grâce à la vente du minerai valent apparemment bien la peine de faire bouger la ville au sens propre du terme. Eh bien nous, on fait bouger Alexis Rosenzweig pour se rendre à Kiruna. Notre correspondant a roulé toute la nuit en train vers le nord depuis Stockholm. Voici son reportage.
Désormais, quand on descend à Kiruna, quand on descend de train, eh bien c'est une nouvelle gare provisoire qui accueille les voyageurs.
Tout simplement parce que l'ancienne gare avait partie de la zone d'effondrement. Ils ont dû arrêter l'ancienne ligne parce qu'on était en plein sur la zone d'effondrement et qu'il y avait des risques de déformation, des risques pour la voie ferrée.
Pascal est un Français installé depuis 7 ans à Kiruna, d'où il organise des randonnées pour les touristes de passage.
Plus on va en avance vers le centre-ville, voilà, plus les hôtels vont au fur et à mesure des années vont se fermer, les bâtiments vont se fermer. Il y a déjà des bâtiments qui ont été détruits. Surtout quand on va à la mairie de Kiruna, on a une vue panoramique au fond. Et là, on voit bien que tout l'espace qui était autrefois, que nous on a connu, a complètement disparu, mais carrément disparu dans des trous.
On entend la nuit les travaux de la mine.
Toutes les nuits, entre une heure, à peu près entre une heure et demie, des fois deux heures moins le quart, on entend les vibrations, donc les explosions, parce que c'est pendant la nuit qu'ils pratiquent les explosions pour évacuer le minerai après. Ça fait comme un gros roulement de tambour que l'on ressent, parce que ça vibre, ça tremble, des fois ça nous réveille.
À l'heure actuelle, c'est à 1365 mètres de profondeur que détonnent toutes les nuits les charges explosives. 80 000 tonnes de minerai de fer, utilisées pour fabriquer de l'acier, sortent chaque jour de la mine de Kiruna, propriété de l'entreprise publique suédoise LKAB. Casque sur la tête, Fredrik Björkenvall nous fait visiter les lieux.
C'est 100% state-owned. It is the world's biggest underground iron ore mine. We know that we have.
C'est la plus grande mine de minerai de fer souterraine du monde. Nous savons depuis longtemps que notre méthode d'exploitation entraîne des problèmes de déformation des sols, et c'est nous qui allons en grande partie financer le déménagement de la ville à hauteur de plus d'un milliard et demi d'euros. Dès l'année 2004, nous avons informé la mairie de Kiruna des problèmes à venir.
So in year 2004, we were notifying the municipality about this.
Retour en surface entre le futur ancien centre-ville de Kiruna et le nouveau centre, espacé d'environ 4 km. Entre les deux, eh bien, il y a cette grande église en bois rouge, église célèbre pour avoir été désignée comme le plus bel édifice de Suède il y a quelques années, célèbre désormais pour être en passe d'être démontée, transportée, puis remontée un peu plus loin dans le cadre du déménagement de la ville, pris en charge en grande partie par le groupe qui exploite cette mine et développé par White Architects, un cabinet dirigé par Christer Lindstedt, dont les bureaux sont installés dans le centre, enfin pour l'instant.
This will be dismantled and gone.
Tout ce que vous voyez ici dans le centre va disparaître et c'est choquant pour les habitants, pas parce que c'est une surprise pour eux, mais parce qu'il faut du temps pour digérer le fait que tout va devoir être détruit et déménagé.
À la sortie de Kiruna, Håkan Enoksson est en train de nourrir quelques-uns de ses nombreux rennes, déjà prêts à se jeter sur les granulés en passe de leur être distribués. Håkan est membre d'une des 16 familles de la minorité Sami autorisées à élever des rennes dans la région de Kiruna. Le peuple Sami est le peuple autochtone de Laponie, aujourd'hui une minorité qui lutte pour faire respecter ses droits. Dans la famille de Håkan, on est éleveur de rennes de père en fils depuis des siècles.
First of all, I hope that when they move the city and when they build.
D'abord, j'espère qu'avec le déménagement, ils ne vont pas encore davantage empiéter sur nos pâturages. Mais on ne peut pas faire confiance aux autorités. Les Samis ont toujours souffert de la politique menée, et il devient de plus en plus difficile pour nous de vivre de l'élevage de rennes. La Suède n'a jamais bien traité les Samis, et actuellement, je ne vois pas de changement d'attitude.
La légende raconte que c'est un Sami qui a découvert par hasard le fer extrait encore aujourd'hui de la mine de Kiruna, une mine tellement rentable que l'on consent à déménager la ville pour creuser davantage. Mais ce qui inquiète Håkan et bon nombre de ses amis, ce sont les diverses prospections en cours et certains projets d'ouverture de nouvelles mines dans cette région que son peuple a appelée Sápmi, la terre des Samis.
Vous avez aimé ce reportage d'Alexis Rosenzweig, vous voulez le réécouter et peut-être même le partager, alors retrouvez-le sans plus tarder dans notre médiathèque sur le dw.com/français. Vue d'Allemagne, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !